Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Et oui, de retour dans 100 ans de cinéma et des poussières, votre émission mensuelle dédiée au cinéma, à toute l'histoire du cinéma sur la Radio Prune et qui revient donc ce samedi de 13h à 14h en direct des studios de la rue Jeanne d'Arc en bas de Talensac à Nantes pour revenir voilà, sur le cinéma avec une nouvelle invitée cette semaine puisque c'est le principe de l'émission, un ou une invitée qui vient parler d'une thématique qu'il ou elle a choisie et qui la passionne et nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir Mélanie Boissonneau, bonjour.
Bonjour.
Et donc merci d'être présente, d'autant qu'il a fallu quand même te faire venir depuis la ville de Rouen.
C'est ça, mais ça va, c'était un plaisir.
C'était un plaisir, bah, en tout cas un plaisir voilà, de te recevoir. Alors pour les auditeurs qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, Mélanie, tu es enseignante chercheuse en cinéma. Tu as fait une thèse d'ailleurs sur le cinéma, si je ne dis pas de
carrément.
Bêtises.
Carrément, j'ai fait une thèse sur les pin-up pendant le pré-code hollywoodien.
Alors déjà, c'est passionnant.
Voilà.
Et alors le pré-code, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est le code Hays, j'imagine, au début des années 30 aux États-Unis.
Alors le pré-code, en fait, c'est une période qui est entre l'écriture du code et son application. Et donc c'est 4 années entre 1930 et 1934 où la légende hollywoodienne veut que cette période soit complètement...
Débridée,
voilà. Donc,
violente,
très sexy, voilà. Donc l'idée, c'était d'aller voir ce que les pin-up faisaient là-dedans et si vraiment c'était si libéré que ça. Mm. Et en fait, ça dépend.
Ok, et ça a été publié d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
Ça a été publié chez Leitmotiv en 2019.
Ok, donc déjà, voilà, ouais. Intéressant. Et tu es enseignante chercheuse en cinéma, où ça du coup
Où on veut bien de moi.
D'accord.
Ça dépend aussi. À Paris, en Suisse, en ce moment.
Ok.
Voilà. Donc, pour l'instant, je ne suis pas titulaire, donc je suis une intermittente de l'université.
Ok. Et comme beaucoup de gens.
C'est ça.
Salut l'université. Hein.
Oui.
Tu n'as pas publié que donc, le résultat de ta thèse, puisque tu as également publié donc, un livre qui s'appelle Les héroïnes. Alors chez Larousse, est-ce que c'est un dictionnaire ou...
Alors non, c'est bon, une sorte d'encyclopédie un peu des héroïnes de fiction.
Mm-hmm.
Donc livres, films, jeux. Série, voilà, et donc c'est, j'ai coécrit ce livre avec Laurent Julliet et c'est sorti chez Larousse en 2020.
Okay.
Mais voilà, c'est un beau livre en fait, avec plein d'images, et puis il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des héroïnes de théâtre, voilà, ça va de Molière à Mortal Adel, quoi.
D'accord.
En gros, en passant par du cinéma, par. Kill Bill, tout ça.
C'est chouette. Donc tout ça, en plus, c'est trouvable en librairie ou ouais. À la commande, j'imagine.
Normalement, c'est encore trouvable facilement.
Oui, mais si jamais vous ne le trouvez pas, vous
commandez,
pouvez... Commandez. N'hésitez pas à commander. Il y a d'autres publications à laquelle tu as participé. Un livre sur la Hammer, un autre sur John Carpenter, qui est l'un de tes chevaux de bataille.
Et oui, bah alors ça, c'est en cours.
Ouais.
Ça va venir toujours chez Leitmotiv, le livre sur la Hammer. Donc, c'est un ouvrage collectif, en fait, qui est lié à un colloque que j'avais organisé et
oui.
Qui va sortir normalement à la rentrée. Et John Carpenter, pareil, sera un ouvrage collectif. Ce sera publié en français aussi. Ce sera plutôt l'année prochaine. Je pense que c'est en cours, quoi. On est, voilà. C'est toujours un petit peu long. Surtout en ce moment, c'est compliqué pour tout. Tout est ralenti. Mais
ouais.
Voilà, la Hammer, ce sera à la rentrée.
D'accord, ok. Donc la Hammer, fameux studio britannique de films d'horreur qui s'est surtout fait connaître dans les années 60 avec les films...
avec Christopher Lee, en vampire...
Peter Cushing...
Voilà.
Voilà, certains qui sont vraiment des très grands films, ou en tout cas souvent des films très agréables. Et puis, tu participes également au Bistrot de l'horreur, qui est un format vidéo, en fait, qui se retrouve sur Filmo TV, mais également donc, sur YouTube, qui, comme son nom l'indique, se passe dans un bistrot. Qui est peut-être un décor.
Oui, je dois le dire, c'est un décor, c'est un faux bistrot dans les locaux de Filmo TV.
C'est très bien fait. Et bref.
Et on ne boit jamais dans ce bistrot, c'est très frustrant.
Oui, c'est vrai, il y a des bouteilles pourtant.
Non, mais je vous conseille, personne n'a osé boire ce qu'il y avait dans les bouteilles qui sont là depuis 1000 ans.
D'accord. Dans le cadre d'un bistrot, en tout cas, trois personnes se retrouvent, et toi tu en fais partie régulièrement, on se retrouve pour parler d'une thématique autour du cinéma d'horreur, mais ça peut être un peu plus large que ça. Et puis on retrouve quelques pointures du genre, des anciens de Starfix notamment, comme François Cognard ou...
Christophe
Lemaire. Oui, non, j'allais dire Roger Lemaire, encore une fois. Ouais.
Alors, non, mais il est bienvenu. Merci.
Et ça, donc, c'est facile à trouver donc, sur YouTube, par exemple, mais également donc, sur Filmo TV.
Oui, en fait, Filmo TV, c'est une plateforme de VOD qui a plusieurs émissions thématiques pour éditorialiser un peu leur contenu et puis donner envie de voir les films qui sont parfois un peu, souvent, pour ce qui nous concerne au bistrot, des films peu connus. Effectivement, cinéma d'horreur, mais genre en général, on a là le dernier par exemple sur le thème, c'est les maisons. C'est la maison, mais donc c'est Home Sweet Home le thème. Donc, mais on a un film, on a Mandingo qui est un film de Richard Fleischer sur les esclaves aux États-Unis. Et donc ça se passe beaucoup dans une maison, mais voilà, le thème c'est très très large quand même. Donc il y a du psychopathe et tout ça, mais il y a aussi de la SF, il y a du péplum, du western italien. Enfin, c'est plutôt cinéma de genre. Il y a aussi Fausto Fazulo qui vient souvent, qui est le rédacteur en chef de Mad Movies, ouais. Et Erwan Chafio, le dernier larron qui fait plein de choses aussi sur le cinéma.
Ouais. Oui. Donc regardez ça si vous. Enfin voilà. Pas seulement si vous êtes fan de films d'horreur, parce que c'est vraiment plus large que ça, comme tu disais. Et c'est vraiment passionnant avec des intervenants ou intervenantes comme toi qui s'y connaissent et qui donnent envie de voir des films. D'ailleurs, suite à la dernière vidéo que j'ai vue, j'ai acheté le coffret François Reichenbach. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, merci beaucoup. Comme on a pu le comprendre par ton travail, par tes publications, tes formations, donc tu t'intéresses au cinéma. Au cinéma de genre peut-être, mais pas que, loin de là. Et donc, tu as choisi comme thématique pour aujourd'hui de nous parler de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Qui est une réalisatrice dont le cinéma t'est assez, dont le cinéma te plaît, j'ai l'impression.
Ah oui, alors en fait, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de plaire, Jane Campion. Je ne sais pas, j'espère que vous avez déjà expérimenté ça, mais il y a des cinéastes qui nous touchent intimement. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi, mais quand on voit ces films, il y a un truc qui se passe. Et alors que je suis une grande fan de cinéma d'horreur, j'adore les trucs gore et tout ça, mais Jane Campion, voilà, j'adore aussi Jane Campion qui me fait un effet. En fait, à chaque fois que je vois un film de Jane Campion, j'ai l'impression qu'elle s'adresse directement à moi, enfin qu'il y a une espèce de truc connecté entre nous, que tout ce qu'elle fait, je trouve ça. Enfin voilà, j'ai un vrai truc.
Une sorte de familiarité au sens premier, quoi.
Ouais, voilà, et puis une espèce d'empathie. Enfin, on est en sympathie. C'est quelque chose de depuis très longtemps, en fait. Alors qu'a priori, ce n'est pas du tout mon type de cinéma. Préférée, mais voilà, avec elle, il se passe quelque chose, donc je la suis depuis longtemps.
C'est vrai. Alors, Jane Campion, on va un petit peu la présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Elle est née en 1954, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, donc capitale de la Nouvelle-Zélande. Et c'est donc une grande réalisatrice néo-zélandaise qui apparaît sur la scène donc fin des années 80, on va dire, avec ses premiers longs métrages, à une époque où le cinéma néo-zélandais n'existe pas, finalement, quasiment pas. Il y a quelques tentatives dans les années 70, mais elle va contribuer à faire connaître le cinéma néo-zélandais. Et puis, surtout, on la connaît aujourd'hui, il faut bien sûr passer par là, pour être la seule femme à avoir reçu une Palme d'Or au Festival de Cannes. C'était en 1994 avec le film La Leçon de Piano. Donc ça, au moins, je pense que vous en avez entendu parler. Mais souvent, hélas, je trouve qu'on réduit un petit peu Jane Campion. Si on présente très simplement, on réduit un peu Jane Campion à cette victoire à Cannes avec La Leçon de Piano et à ce film-là, alors que justement, c'est l'occasion aujourd'hui de parler du reste de sa filmographie. Cependant, parlons quand même de La Leçon de Piano, puisque c'est le film qui l'a fait connaître du monde entier.
Oui, alors je crois que c'était en 93, il me semble que 94, c'était Pulp Fiction, autre salle, autre ambiance, hein, Pulp Fiction. Mais,
exactement, 93. Crois, ouais. Mais a eu l'Oscar en 94, puisque c'est l'année.
C'est ça. Voilà. Mais, et en plus, alors, je vais même rajouter que non seulement c'est la seule femme à avoir eu une Palme d'Or, en plus, c'était une, on va dire une demi, parce qu'elle a dû la partager avec Shane Cage pour Adieu ma concubine. Mm-hmm. Donc en plus, elle ne l'a même pas eu pour elle toute seule. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu la honte. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je disais ça quand j'écrivais. Je faisais un mémoire de Master 2 sur Jane Campion et je peux toujours le dire aujourd'hui, ce qui est quand même... voilà.
Ouais, ouais. Elle est à ce jour la première femme à avoir eu la Palme d'Or. Elle a été pour ce film nommée, on s'en fiche, à l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Et elle était seulement la deuxième dans l'histoire des Oscars après la réalisatrice italienne.
Liv Ullmann,
Liv Ullmann, je ne sais plus.
Mais bon, en tout cas, elle a eu une demi-palme d'or et c'est toujours la seule femme. Et ça, ouais. c'est bien dommage. Mais c'est vrai que la leçon de piano, ça a été un tournant dans sa carrière, mais elle a quand même une relation avec Kahn qui est antérieure à la leçon de piano parce que, en fait, Pierre Rissian, qui était un peu un conseiller, un délégué qui cherchait des films à faire connaître et à diffuser à Cannes, l'avait repéré très tôt. Mmh. Et en fait, elle a eu un prix pour son court-métrage qui s'appelle Pile en 82, donc déjà à Cannes. Donc elle a une histoire quand même, l'histoire de son exportation, on va dire, est très liée au Festival de Cannes.
Ouais.
Et Sweetie, son premier long métrage, avait aussi été diffusé à Cannes.
Ouais.
Voilà, c'est vrai qu'on doit beaucoup à Pierre Rissian et au Festival de Cannes la reconnaissance internationale de Jane Campion.
Pierre Rissian, ouais, qui faisait du bon boulot.
Jane Campion ne cesse de le remercier dès qu'elle en a l'occasion et quand il est décédé il y a peu de temps. Elle a vraiment parlé de lui comme quelqu'un à qui elle devait sa carrière en fait internationale. Bon, ça aurait peut-être pu passer par quelqu'un d'autre après puisque voilà, elle méritait sa reconnaissance. Mais c'est vrai que c'est vraiment lui qui l'a amené, qui l'a fait sortir des frontières néo-zélandaises.
Et donc oui, ce court-métrage Pile, donc comme peau en fait, comme pelure plutôt, comme une pelure de fruits, en 1982, soit l'équivalent d'une sorte de palme d'or du court-métrage. Et donc, par contre, elle est la seule femme à avoir, et même la seule personne en fait, à avoir eu la palme d'or du court et du long-métrage. Voilà, quand même.
Elle est forte.
Elle est très forte. Et effectivement, ces films suivants des courts-métrages passeront à Cannes aussi, souvent à un certain regard. Son premier film également, donc en fait c'est vrai qu'elle était attendue, elle faisait partie des favoris, des chouchous un peu du festival, puisque le festival aime bien comme ça faire venir plusieurs fois à la suite les mêmes personnes, même ceux qui ont déjà deux palmes d'or, là ça devient un peu plus compliqué, mais voilà, Jane Campion c'est quelqu'un qui assez rapidement donc, apparaît sur la scène internationale, alors que c'est bête à dire, mais c'est vrai, elle est une femme et elle vient de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas tout le chemin tout tracé devant elle. Et d'ailleurs, on retrouve finalement ces questions du parcours comme ça, artistique aussi, dans un film, un de ses premiers films qui s'appelle Un ange à ma table, qui est adapté d'une autobiographie de
Janet Frame, qui est poétesse néo-zélandaise, du coup, et qui était au départ un film en trois parties. Un film pour la télévision en trois parties, puis qu'on peut retrouver maintenant rassemblé en un seul film. Et qui est un film vraiment extraordinaire, alors qui pour le coup a pas été, je crois pas qu'il ait été diffusé à Cannes, mais on peut le trouver maintenant. Il est édité en Blu-ray, enfin en DVD en tout cas.
Ouais.
Et oui, c'est un film où on a déjà ces thématiques phares sur le thème, le portrait de femme, et puis la question d'être une artiste, d'être une femme empêchée aussi, parce que c'est une femme en fait qui a eu une vie complètement terrible, où elle a été elle a subi des électrochocs parce qu'on la croyait schizophrène ou je ne sais plus quoi. Enfin,
pendant 8 ans.
Voilà, donc qui a failli être lobotomisée pratiquement. Enfin,
elle a été sauvée par un prix qu'elle a reçu juste avant d'être lobotomisée. Et du coup, on a dit, ah bon, bah non, en fait, elle est...
Voilà,
elle
ne
doit
fait,
pas être complètement folle.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'était... et donc, Janet Frame, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, hein, puisque Janet Frame a assisté au tournage, enfin était présente au moment du tournage Et on voit des photos comme ça où elle est, Janet Swaim est en photo avec les trois actrices qui l'interprètent à trois âges différents. Et elle est remarquable aussi parce que physiquement, elle, c'est une femme avec une espèce de tignasse bouclée, rousse, flamboyante. Mmh. Et donc, on voit ces quatre femmes rousses, flamboyantes qui sont en photo. Et c'est un vraiment très, très joli film. Enfin, il faut s'accrocher quand même parce que c'est, comme toujours chez Jane Campion, il y a quand même un côté assez sombre. Enfin, c'est un film qui est à la fois dur et très lumineux. Mmh. Et enfin, moi, c'est ce mélange-là que j'adore aussi chez elle, quoi.
Mais en fait, on avait parlé de la leçon de piano, mais moi, je trouve que finalement, Un ange à ma table, c'est un bon premier point d'entrée dans la carrière de Jane Campion, même si c'est pas son premier film, puisqu'il y a tellement d'éléments qui vont correspondre un peu à sa biographie aussi. Donc c'est comme si c'était un film somme qu'elle fait assez vite dans sa carrière pour ensuite pouvoir peut-être passer à des projets plus un peu différents. Mais en adaptant cette autobiographie de Janet Frame, qui est une écrivaine néo-zélandaise, voilà, qui elle aussi donc a eu la difficulté de naître femme en Nouvelle-Zélande. Alors elle est née en 1924, je crois. Et elle c'est vraiment tout le film qui dure 2h30. On la voit en train de se débrouiller, en train de voilà de devoir s'affirmer, sortir et sans jamais en plus véritablement être dans une position de victime, je trouve. Elle est toujours très même si elle a quand même des difficultés à vivre en société un petit peu quand même, elle veut avancer, elle veut vraiment écrire, elle sait ce qu'elle veut. Et donc, elle est obligée de partir à Londres, en fait, puisque la Nouvelle-Zélande, pendant longtemps, c'était un petit peu, si on veut, hein, je résume, mais culturellement. Au niveau du rayonnement et des possibilités artistiques sur place. La Nouvelle-Zélande était un peu l'Irlande de l'Australie, si on compare entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et même l'Australie était un peu l'Irlande de Royaume-Uni à un moment. Donc la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment pas simple pour faire les choses. Et ça a complètement changé avec notamment Jane Campion, des acteurs comme Sam Neill qu'elle a fait bosser. Et puis bien sûr, fin des années 90... Peter Jackson qui va chambouler tout ça avec Le Seigneur des Anneaux.
Oui, et puis Peter Jackson, il chamboule aussi la place de la Nouvelle-Zélande d'un point de vue économique, puisqu'il a monté ses studios à Wellington, ses studios d'effets spéciaux, qui aujourd'hui sont utilisés en fait, par des grosses productions hollywoodiennes et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu un basculement comme ça à la fin des années 80, enfin dans les années 90. Et à la fin des années 90, mais Jane Campion, pour le coup, a tourné en Nouvelle-Zélande ses premiers films, et elle a aussi beaucoup tourné en Australie. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'il y a ce lien un peu avec l'Australie. Effectivement, c'est une bonne analogie, je trouve, entre l'Angleterre et l'Irlande. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, un peu, on se dit, bon, pour... Comme nous, certains, on va dire, on va monter à Paris pour réussir ou quoi. Là, il y a cette idée, bon, il faut qu'on aille en Australie. Ouais. Et effectivement, elle va faire une partie de ses études en Australie, d'ailleurs, Jane Campion.
Oui, elle fait des études d'art à Londres, d'autres études d'art à Sydney. Et puis, elle travaille, et puis elle finit ses études à l'Australian Film, Television and Radio School de Sydney. Quoi.
Voilà, qui lui permettent de faire ses courts-métrages, notamment. La plupart de ses courts-métrages sont des projets d'études.
Et on a abordé les années de formation de Jane Campion. On sait pourquoi elle est connue et quels étaient peut-être les obstacles sur son parcours qu'elle a largement dépassé rapidement. Ensuite, on va continuer à parler du reste de sa filmographie, mais on va commencer, on va faire une courte page musicale avec un extrait d'un de ses films, enfin une chanson utilisée dans un de ses films. C'est allez, on commence avec un peu du rock. C'est Alanis Morissette, You Ought to Know. C'est sur la bande originale de Holy Smoke de 99 avec Kate Winslet qui écoute ça dans la voiture et qui chante à tue-tête. A tout de suite dans 100 ans de cinéma avec Mélanie Boissonneau pour parler de Jane Campion. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave every day was a baby for the making enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she
L'invité de 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune 92 FM.
Et oui, de retour dans 100 ans de cinéma après Alanis Morissette sur la bande originale, enfin utilisée en tout cas dans le film Holy Smoke de Jane Campion, dont nous parlons pendant une heure, pendant un peu plus d'une demi-heure maintenant, avec notre invitée Mélanie Boissonneau. On a évoqué voilà, ses débuts. Alors. Il y a une thématique qui est chère à Jane Campion, visiblement, c'est que, et puis on va l'aborder, c'est celui donc des héroïnes. Et ça tombe bien, tu as écrit un bouquin dessus.
Oui, il y a même carrément, j'ai tenté la page entière consacrée aux héroïnes de Jane Campion dans le livre d'ailleurs, parce que voilà, ça me faisait plaisir. Ça a été validé, donc
ah oui.
C'est chouette. Ouais, carrément.
C'est plus que tenté, alors.
Ouais. Je l'ai fait.
Super.
Et ouais, dans les héroïnes, d'entendre Alanis Morissette, c'est... dans Alanis Morissette, il y a aussi toute cette espèce d'énergie de fille, un peu girl power, qu'on retrouve sous différentes facettes dans toute l'œuvre de Jane Campion. Depuis même ses premiers courts-métrages et jusqu'à Top of the Lake, la série, en fait... qu'elle a réalisé en 2013 et 2017 pour la deuxième saison. Donc c'est vraiment le fil conducteur. Et elle a fait un film qui s'appelle Portrait de femme, alors qu'il y a une adaptation. Mais on pourrait appeler Portrait de femme, on pourrait appeler tous ces films Portrait de femme, en fait, ça marcherait, quoi.
Ouais. Une adaptation du livre du même nom de Henry James, donc qui était l'auteur également de la Mégère apprivoisée. The Turn of the Screw, ouais. C'est voilà un titre d'une autre époque. Oui, effectivement, donc tous les films. Alors d'ailleurs, c'est sur l'occasion de d'en parler maintenant. Elle va sortir un film à la fin de l'année pour Netflix. D'ailleurs, il a été produit, je crois, par Netflix, et donc il passera pas à Cannes parce que Netflix, blabla. Mais il sortira, et donc ça s'appelle The Power of the Dog, pardon. Et ça sera avec Benedict Cumberbatch et également Kristen Dunst. Mais c'est Cumberbatch qui jouera le rôle principal. Donc ça sera le premier film, finalement, même le La première œuvre de Jane Campion où le rôle principal est tenu par un homme. Voilà, donc ça sera l'occasion de voir ça aussi. Mais effectivement, ouais, ça a toujours été des femmes au centre de son film, de ses films, pardon, et notamment de. En tout cas, à ses débuts, j'ai l'impression dans Sweetie, dans Un ange à ma table, on en a parlé, des personnages qui ont des problèmes aussi émotionnels, on va dire.
C'est joliment dit. Mmh. Voilà, oui, on peut dire ça, Sweetie et Un ange à ma table. Oui, bah, en fait, finalement, dans toute l'œuvre de Jane Campion, ces héroïnes, elles se posent des questions et elles sont plus ou moins adaptées à la société, en fait. Et donc, alors, plus, dans le cas de Sweetie, elle est vraiment très, très peu adaptée à la société. Mais sa sœur, qui s'appelle Kay dans le film, ouais. Qui est l'autre personnage principal du film, n'est pas beaucoup plus adaptée. Et... Pour le coup, je trouve que même, en fait, on parle des héroïnes, mais même les hommes, tu parlais du prochain film avec Benedict, que j'en arrive jamais à dire le nom. Voilà. ça, c'est pas inintéressant que ce soit lui. Alors, on va voir ce que ça donne, mais ouais. Elle pose la question de ce que c'est aussi que la féminité, que le masculin et tout ça. Et cet acteur-là, il a une virilité particulière aussi. Il est un petit peu androgyne. Enfin, il y a quelque chose quand même. J'ai assez hâte de voir ce film qui, je crois, va s'apparenter à un western plus ou moins. Enfin, je sais pas, à voir. Mais oui, non, ces héroïnes, en fait, elles sont. Voilà, c'est dans la leçon de piano, c'est aussi c'est une femme qui donc est muette, l'héroïne, hein, qui est mariée. Alors, on va dire qu'elle est mariée de force, mais en fait, à l'époque.
Un mariage arrangé.
Voilà, ouais. C'est un mariage arrangé, organisé, on va dire, par son père, comme en fait c'était la norme de l'époque. Voilà, donc c'est.
Et je crois qu'elle est muette, pas vraiment de naissance, mais psychologiquement.
Alors on ne sait pas, voilà. Un jour elle s'est arrêtée de parler et on ne saura jamais pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super aussi chez Jane Campion, enfin que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne donne pas toutes les réponses et qu'en fait on peut soi-même chercher. Se faire sa propre réponse et elle laisse vraiment le champ libre à l'intelligence du spectateur et à l'imagination aussi. Elle ne répond pas à tout et elle laisse tout le temps. Et tous ses films se terminent par une porte ouverte en fait. Donc c'est à la fois très positif, moi je trouve ça très optimiste parce que quelles que soient les situations, elle laisse un champ libre. Elle n'est jamais dans la clôture. Mais en même temps, ça peut être frustrant parce qu'on a envie de savoir, mais parfois on ne sait pas. Et Ada, l'héroïne de la leçon de piano. On ne saura jamais pourquoi elle s'est arrêtée de parler. Et par contre, bon, je ne dis pas tout, mais...
On peut, hein.
On peut.
Bah, moi, je pense qu'on peut, déjà parce que le film a 25 ans, et ensuite parce que pour pouvoir juger des films et des œuvres, il faut aussi connaître la fin, sinon on ne parlerait plus de Deep Roy depuis longtemps, par exemple.
C'est pas faux, c'est pas faux. Mais oui, c'est vrai que voilà, elle, y a toujours de l'optimisme à la fin, et la leçon de piano n'échappe pas à la règle, alors que ça aurait pu être un film... elle aurait pu terminer le film sur la tentative de suicide en fait de l'héroïne. Et non, il y a ce prologue qui nous invite à réfléchir. Cet épilogue, pardon, le prologue c'est avant. Cet épilogue qui nous invite à voir l'avenir de façon plus positive. Et elle le fait à peu près à chaque film. Donc restez bien jusqu'au bout surtout.
Regardez bien le film jusqu'au bout. Ce film donc lui ouvre les porte bien sûr d'Hollywood qui commence enfin à s'intéresser à son travail, quoique La leçon de piano c'était pas un film fauché du tout, hein.
C'est une coproduction en fait alors australienne et anglaise et française. La France enfin est vraiment une terre d'accueil, hein, pour Jane Campion. Elle est très liée à la France, donc oui, c'était déjà une coproduction. Et dans les acteurs aussi, on a des acteurs qui viennent à la fois de Nouvelle-Zélande. On a Anna Paquin aussi, dont on n'a pas parlé, mais Anna Paquin, qui est dans La leçon de piano, qui joue la petite fille. On va la retrouver, c'est une actrice qu'on retrouve plus tard, qui joue Mystique dans les X-Men, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a aussi commencé sa carrière là.
Rogue,
ouais, je sais plus, enfin elle joue dans les X-Men. J'ai un doute maintenant. Mais oui, non, c'est pas Mystique. Mais voilà, c'est une actrice qu'on va voir après. Et puis, donc, elle a Harvey Keitel et Sam Neill dans La leçon de piano. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a pris deux acteurs qui étaient très connus, déjà, mais pour des rôles inverses de leur emploi dans La leçon de piano. C'est-à-dire qu'Harvey Keitel, c'était le petit mafra, mafieux new-yorkais, l'espèce de roquet, voilà, qu'on voyait dans des films de gangsters, chez Scorsese, etc. Sam Neill, c'était plutôt le gendre idéal. Il jouait plutôt des... enfin, un peu, pas dans tous les films.
Ou le fils du démon.
Voilà, ou le, ouais, aussi. Mais il était plutôt, c'est plutôt le, voilà, le, quelqu'un qui est un acteur, pas lisse, mais il avait, il jouait des, plutôt des, voilà, des personnages positifs, globalement. Mm-hmm. Et en fait, dans la son piano, elle, justement, elle se sert de ces images-là pour les détourner, puis les inverser. Donc ça, c'est super intéressant aussi.
Mm-hmm. Oui, tout à fait, ouais. Non, puis ils sont pas forcément très... complètement positif ces personnages masculins, mais ils sont pas non plus comment dire
Bah, ils jouent sur l'ambiguïté tout le temps. Ouais, en fait, c'est ça qui est passionnant, et que ce soit sur chez toutes ces héroïnes et tous ces héros, en fait, ont des failles et ont des ambiguïtés, et finalement voilà, ce sont des films qui sont très humains aussi, dans ce sens-là où bah tout est possible et personne n'est parfait, quoi. C'est pas du tout manichéen, en fait, c'est jamais manichéen. Et effectivement, même dans la leçon de piano, le mari qu'on pourrait estimer un affreux, qui aurait pu être juste un affreux personnage qui n'arrive pas à aimer sa femme, qui n'arrive pas à se faire aimer d'elle et qui du coup la maltraite, en fait il y a des séquences où on voit aussi sa souffrance à lui et comment lui n'arrive pas à gérer sa propre place dans la société, comment Ada a aussi du désir pour lui d'une certaine manière. Enfin, c'est vraiment voilà, tout est ambigu, tout est entremêlé, comme le Bush australien, le Bush néo-zélandais dans lequel elle filme. Donc c'est vraiment passionnant.
Et puis nuancé, oui. Oui,
ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de caricature, en fait, dans son travail.
Et ce qui est intéressant, c'est que, on ne l'a pas dit, mais elle a écrit ou co-écrit, en tout cas, la très grande majorité de ses films. C'est donc vraiment ce qu'on peut qualifier depuis la nouvelle vague d'une auteure de cinéma, quoi. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on peut vraiment créer des parallèles entre ces films et qu'on peut y retrouver des choses. Et donc, quand elle fait la leçon de piano, énorme succès. On lui ouvre donc les portes d'Hollywood et on lui donne un peu carte bleue, comme ça arrive à ces moments-là. Et le film qu'elle choisit de faire, c'est Portrait de femme, qui est un film finalement qui a dû pas mal dérouter, je pense, à l'époque. Un film très sombre avec Nicole Kidman dans le rôle principal, donc qui était déjà une star vraiment montante à cette époque-là.
Et qui est australienne, rappelons-le.
Et qui est australienne, voilà. Et qui devait jouer dans l'un de ses premiers cours à l'âge de 14 ans, mais qu'elle a refusé parce qu'elle devait embrasser un garçon, elle n'était pas à l'aise. Ah. Et voilà. Ouais. et Nicole Kidman, qui est une grande actrice quand elle s'en donne la peine, on va dire. Mais et donc le film, alors, pour le coup, juste, on voit que effectivement ils ont sorti le chéquier, le casting notamment.
Bah, y a John Malkovich aussi qui joue Osmond.
John Malkovich, Barbara Hershey, Shelley Winters, Shelley Duvall, Richard E. Grant, Viggo Mortensen et Christian Bale avant qu'ils soient véritablement connus, et Sir John Gielgud. Voilà, donc déjà c'est pas mal, mais cette histoire est vraiment celui, donc, comme son nom l'indique, d'un portrait de femme joué par Nicole Kidman. Ça se passe donc en 1875 entre l'Angleterre et l'Italie, et c'est l'histoire de cette jeune femme qui hésite entre plusieurs parcours, plusieurs...
Entre Viggo et Christiane, aussi.
Pas Christiane.
Ah oui, non, mais pas Christiane.
Entre Viggo, John Malkovich, Richard E. Grant, femme. Et son cousin aussi, qui est joué par Martin Donovan. C'est un film qui est vraiment dans la... Alors, attention, quand j'utilise ça, je l'utilise plutôt au terme dans le sens... américain. Il est dans un film qui est dans la déception. C'est-à-dire qui va pas forcément partir dans ce à quoi on l'attend, et qui déçoit des attentes, en fait, mais qui déçoit pas forcément artistiquement, bien entendu. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, et j'ai trouvé ça super de la part de Jane Campion, qui fait un film très personnel, très intéressant, très beau aussi. Enfin, les images sont magnifiques, la musique.
Ah bah, de toute façon, pour le coup, on n'a pas trop parlé de style, de mise en scène, mais pour Jane Campion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films, il y a une qualité de mise en scène qui est indéniable, et c'est-à-dire que chaque plan est composé, réfléchi, et peut-être que Un ange à ma table, c'est celui où c'est vraiment extrêmement frappant de voir la composition, le travail de mise en scène, même de photographie, parce que c'est un film effectivement qui est très sombre à tous les sens du terme. Hein. Ne regardez pas le film sur un petit écran ou sur une petite télé en plein jour et tout ça, parce qu'en gros, vous ne verrez pas grand-chose. Sur un téléphone dans le bus non plus. Donc, c'est un film qui mérite quand même des conditions de projection un peu au moins dans le noir, quoi. Mm-hmm. Sinon, vous ne verrez pas grand-chose, et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à voir. Et oui, non, il y a un travail de mise en scène qui est extraordinaire. Et Portrait de femme, c'est sûr que C'est un film qui... Alors, je vois ce que tu veux dire dans la déception, dans le sens où, de toute façon, Jane Campion, elle ne va jamais là où on l'attend.
Voilà.
Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quand après la son de piano, on l'attend peut-être dans un truc romantique. Là, on est quand même dans quelque chose... Alors, c'est du romantisme, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire très sombre. Et puis après, avec Holy Smoke, alors là, changement de programme complètement, In the Cut aussi. Enfin, en fait, et puis après, elle fait de la série, enfin... Elle fait ce qu'elle veut et ça c'est quand même aussi génial parce que du coup on voit que je trouve qu'il y a toujours un plaisir quand même dans ces films sauf dans alors Portrait de femme qui est le plus sombre je trouve de tous ces films dans la thématique mais quand même encore une fois rester jusqu'au bout parce qu'elle a aussi changé la fin.
Ah oui.
Elle a un petit peu changé la fin de enfin en tout cas elle a laissé une ouverture possible qui n'existait pas ou beaucoup moins dans le roman. Mais c'est voilà, il y a des séquences. On est presque dans le film de vampire en fait, parfois dans Portrait de femme, notamment la séquence de séduction d'Osmond dans les caves, enfin dans les sous-sols du musée, je crois, en Italie.
Ouais.
Où on a la musique du compositeur dont j'ai oublié le nom.
Wojciech Kilar.
Voilà, qui fait vraiment un thème voilà vampirique qui avait fait la musique de Dracula, de Coppola, il me semble.
Ouais.
Et on retrouve ce truc un peu gothique, en fait. C'est un film qui est gothique, presque, Portrait de femme. Mmh. Et vraiment, c'est un film à redécouvrir. Et puis, voilà, Nicole Kidman, effectivement, et John Malkovich, franchement, ont rarement été aussi mis en valeur au niveau de leur jeu. Et puis, non, c'est vraiment un film à redécouvrir dans de bonnes conditions, si possible.
Oui, parce qu'il avait été, enfin, dans mon souvenir, là, j'étais plus jeune, mais il avait été un peu balayé rapidement en disant, bon, bah, c'est pas du niveau de la leçon de piano, alors qu'en fait, non, c'est vraiment bien. Ouais.
Y a un truc intéressant avec la leçon de piano, c'est que, en fait, sur les critiques, en fait, avant que le film ne soit un succès populaire à Cannes, les critiques avaient encensé le film, comme ils avaient encensé Sweetie juste avant, enfin, quelques années avant. Et quand le film a gagné la palme et après a été un énorme succès en salle, hein, il a fait presque 3 millions d'entrées en France. Enfin, c'était vraiment pour une Palme d'Or, c'était vraiment. Et puis même en soi, c'était un énorme succès.
Oui.
Et après, en fait, quand le film est ressorti en salle et qu'il a été un succès, là, d'un coup, les critiques ont dit oui, non, mais quand même, c'est un peu mièvre, c'est un peu romantique, c'est un peu gnangnan, c'est un truc de fille. Enfin, il y avait voilà. Et du coup, je pense qu'il y avait, elle est un peu tombée en, il y a eu une sorte de désamour après avec ce succès public. De la part de la critique qui était un peu déstabilisant.
Le succès est toujours très dangereux.
Bah, pour les critiques, en tout cas, ce qui est dommage. voilà, comme si un film qui devenait populaire ne pouvait plus être un bon film.
Ça, c'est un sacré écueil en France, en tout cas.
Mais ça, c'est... Ouais, pour le coup, j'ai vraiment étudié, épluché toutes les critiques. Il y a vraiment un avant-après dans la critique. Donc, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que ça a été c'est un film qui est moins enthousiasmant dans le sens... par rapport à la son de piano qui est très... qui a un côté flamboyant comme ça, avec ses paysages et tout ça. Portrait de femme, c'est plus renfermé, quoi. C'est un film qui est renfermé, en fait, clairement.
Oui,
avec une femme qui a du mal à s'ouvrir, pour le coup.
Oui, exactement. Elle est corsettée.
Exactement, ouais.
Et alors, le film ne va pas rencontrer un énorme succès. Ce ne sera pas non plus un bide. Son film suivant sera très attendu. Donc, le film Holy Smoke en 1999. Très attendu, un peu malgré elle, je pense, parce que, en fait, le rôle principal a été confié à Kate Winslet, qui est une excellente actrice, vraiment. Mais, en fait, c'est le film qu'elle a fait juste après Titanic et son succès colossal. Ce qui fait que, un peu comme DiCaprio... le film qu'il a fait juste après Titanic, pas de bol, il l'avait tourné avant, je crois, c'était L'homme au masque de fer, donc un de ses pires films, mais bon, très sympa. Mais donc, comme on les attendait tous au tournant, forcément, tout le monde regardait les films et puis surtout était prêt à dégommer. Comme l'on dit, le succès est toujours suspect, en tout cas pour une partie de la critique, ce qui est quand même bien, bien dommage. Mais Holy Smoke, c'est un super film avec donc Kate Winslet qui joue une Australienne. Après, elle est britannique, mais elle avait joué déjà une Néo-Zélandaise dans Créatures Célestes de Peter Jackson.
On y revient,
tout est lié. Et elle joue donc une Australienne qui part en Inde et qui tombe amoureuse d'un gourou, elle veut se marier avec lui, puis surtout
elle tombe sous sa coupe un peu, elle est fascinée par ce gourou, mais comme en fait on a l'impression que c'est comme plein de jeunes Australiens en fait font un espèce de voyage initiatique un peu, elle se cherche, elle part. Et...
une espèce de spring break spirituel.
Ouais, voilà. Et en fait, quand elle revient, sa famille est très inquiète et en fait veut la dégouroutiser.
Ouais.
Et donc fait appel à
la déradicaliser.
Voilà, c'est ça. Et fait appel à un spécialiste de la question qui est donc joué par Harvey Keitel, qui joue encore une fois un contre, enfin là où on ne l'attend pas par rapport à la leçon de piano.
Donc il y a une il y a une évolution dans le personnage.
Voilà, là c'est il joue une caricature d'américain.
Avec Stetson et Bott.
Enfin,
pas Stetson, mais ouais, il y a les Bott, les Tiagres.
Il y a les Bott, et puis il y a le chanteur dont j'ai oublié le nom qui fait la musique. Enfin, bref, mais qui a, enfin, voilà, il est accompagné par tout un imaginaire américain quand il arrive à l'aéroport. Et puis, alors, il se teint les cheveux. En fait, c'est aussi un homme qui a un souci avec son âge. Avec sa place d'homme, avec le vieillissement et tout ça, et qui va se confronter à cette jeune femme, et ça va faire des étincelles parce qu'ils vont être bloqués dans un, enfin ils vont s'enfermer dans une cabane au fin fond du bush australien pour cette entreprise de déradicalisation.
Et le bush australien, c'est vraiment un lieu très fécond de cinéma quand même. On en a vu beaucoup et c'est vraiment un super film qui lui aussi, bah voilà, a été un peu mal perçu parce que voilà, c'était le film à flinguer. Parce que voilà, c'était les gens qui avaient eu du succès juste avant, mais pourtant vraiment, moi j'ai enfin découvert pour préparer cette émission et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très bien et très bon. C'est peut-être aussi son plus comment dire accessible. Enfin, c'est pas accessible, mais plus marrant aussi.
Oui, ça, Jane Campion, en fait, même dans ses premiers films, que ce soit dans Sweetie ou dans ses courts-métrages, etc., elle fait des effets de style aussi. Elle se permet, en fait, par exemple, pour montrer des rêves, d'un coup, elle va faire surgir de l'animation. Dans la son de piano, on a un tout petit peu de... Quand la petite fille raconte, quand Flora raconte l'histoire de son père, on voit d'un coup un personnage en animation qui brûle, etc. Mm-hmm. Et en fait, dans Holly Smoke, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à mettre de l'animation, à mettre des espèces de figures un peu... qui représentent des divinités fantasmées, des créatures hindouistes. Ouais, voilà, hindouiste, un peu hybride, bizarre, qui surgissent comme ça, avec des couleurs pas possibles. Elle met presque du kaléidoscope à un moment. Oui. En fait, elle n'hésite pas. Il y a des audaces stylistiques en fait qu'on trouve assez peu quand même dans la production mainstream habituelle, quoi. Donc c'est peut-être ça qui a dérouté aussi, c'est qu'elle est assez radicale en fait finalement dans son genre.
Ouais, oui, et puis elle fait vraiment le film qu'elle a envie de faire. Enfin, je pense, malgré le fait qu'elle ait bossé avec Miramax et les frères Weinstein, enfin surtout Harvey pour ce film-là. Je m'étais juste posé la question en fait pour l'épilogue de ce film. Mais c'est vrai que tu disais que souvent ça se termine sur une note un peu plus positive. Mais cet épilogue-ci, qui est vraiment un post-scriptum, puisqu'on on voit les deux personnages s'écrire et lire les lettres respectives, et semble un petit peu surnuméraire, quoi, à la fin de. À la fin de ce film. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas la machine Weinstein qui passait derrière pour qu'il y ait une sorte d'happy end, ou en tout cas un peu mieux. Mais c'est possible aussi que ça corresponde tout à fait à son cinéma. J'ai surtout un mauvais a priori avec Miramax, et donc forcément, je me posais la question. Mais le reste est très efficace.
Ouais, j'ai pas la réponse sur ça, mais honnêtement, ça me choque pas spécialement. Et on parlait des épilogues, mais c'est vrai que, par exemple, on pourrait faire un truc juste sur les prologues et les épilogues des films de Jane Campion, parce que on n'a pas parlé, mais Portraits de femmes, par exemple, c'est le prologue a un peu fait grincer, ou les gens ont adoré. En fait, ce sont des femmes. Contemporaines qui sont assises dans la nature et tout ça. Il y a un super travelling sur ces femmes-là. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, enfin, c'est une façon de dire, bah, regardez l'histoire de cette femme-là. En fait, ça peut être l'histoire de toutes les femmes, quoi. Et donc, elle replace quand même souvent ces films dans un truc universel. Elle pense en fait à l'humanité en général quand elle fait ses films, et parfois de façon explicite, comme dans Portrait de femme. Donc on pourrait vraiment parler que des prologues et des épilogues.
Mais nous n'avons pas le temps. Courte page musicale à nouveau. On en a parlé donc de Wojciech Kilar, qui a fait la musique de Portrait de femme, un très grand compositeur polonais. On écoute donc le générique de fin, c'est pas très long. On revient après pour la fin de 100 ans de cinéma avec notre invitée Mélanie Boissonneau. À tout de suite.
100 ans de cinéma et des poussières avec notre invité.
Enchaîner Wojciech Kilar avec voilà, c'est Gromit. C'est ça, 100 ans de cinéma, parce que voilà, c'est que des super films. C'était donc le générique de fin du film Portrait de femme de Jane Campion. Et donc, on aborde cette dernière intervention ensemble avec Mélanie Boissonneau, notre invitée, pour parler du cinéma de cette réalisatrice néo-zélandaise. Et on n'a pas tout abordé, on ne pourra pas vraiment tout aborder en détail, mais revenons donc à sa seule incursion américaine véritablement, qui était donc In the Cut en 2003, un film qui là encore n'était pas du tout là où on l'attendait, un film qui a dérouté aussi. Le jeune spectateur, en tout cas, que moi j'étais quand je l'ai vu au cinéma à 18 ans.
Ah oui, c'est un peu... À combien ?
18.
Oh, 18, ça va.
Ouais, non, mais c'était des circonstances...
D'accord, okay. On en parlera plus tard. Okay. Non, In the Cut, c'est une adaptation aussi d'un roman, c'est un polar.
Ouais.
C'est un polar, mais finalement, dans le film, comme dans la plupart de ses films, elle va où elle veut et elle va s'intéresser à ce qui l'intéresse et pas forcément à l'histoire du film, parce que pour le coup, le côté enquête du film, on s'en fiche un peu. Ce qui compte surtout, il me semble, c'est la relation donc, entre l'héroïne qui s'appelle Franny et qui est jouée par Meg Ryan.
Dans l'un de ses derniers grands rôles, finalement.
Ouais, où elle est assez méconnaissable, mais elle reste encore... Oui, humanoïde, on va dire.
Voilà, la chirurgie est passée par là.
Voilà, mais elle est vraiment extraordinaire dans ce film. Et surtout, personnellement, j'adore Mark Ruffalo dans ce film.
Oui.
Qui a vraiment un rôle excellent, qui joue donc un enquêteur. Et encore une fois, on ne sait pas trop qui sont... Enfin, si c'est un méchant, gentil... Enfin, voilà, c'est extrêmement ambigu. Extrêmement ambigu. Et donc voilà, c'est un film polar. C'est un polar. Prétexte à faire un portrait, encore une fois, d'une femme et de sa relation avec les autres, en fait.
C'est aussi son film le plus ouvertement érotique.
Assez sexy. Enfin, ouais. La leçon de piano, ça l'est aussi
Ça l'est aussi, ouais. Un peu plus corseté, là encore. Mais...
Voilà, là, effectivement, In the Cut, si on traduit, hein, c'est dans la fente, hein, quand même, ça veut dire.
Ouais.
Donc voilà, je vous laisse aller voir. Mais c'est vrai que c'est un film qui est vraiment sur les relations... charnel, érotique entre les deux personnages principaux. Et encore une fois, elle a changé la fin du roman. Si vous connaissez le roman, elle a changé la fin. Toujours dans cette perspective optimiste qui la caractérise, malgré la noirceur quand même du film. Et elle a aussi intégré des séquences un peu oniriques qui rappellent un de ses courts-métrages où on voyait une femme qui fait de l'escalade. Enfin voilà, elle a toujours sa patte quand même, quel que soit le support, quel que soit le genre qu'elle aborde, on peut reconnaître quand même à chaque fois que c'est du Jane Campion.
Tout à fait, ouais. Alors bon, le film, celui-ci va vraiment pas bien marcher, quoi qu'il va pas, d'après ce que j'ai compris, perdre d'argent. Mais elle va retourner, enfin elle va mettre un petit peu de temps avant de refaire un long métrage, et ça sera en 2009. Son dernier long métrage donc en date. Qui sort au cinéma, c'est un film qui s'appelle Bright Star, donc qui va revenir encore, voilà, on retrouve des thématiques chères à son cinéma, une héroïne d'une époque révolue pour le coup, puisqu'on est en 1830, quelque chose comme ça.
Ouais, quelque chose, à peu près comme la leçon de piano en fait, un peu plus tôt. Mais...
Et c'est en plus aussi tiré d'une histoire vraie, c'est avec Abby Cornish, qui est une actrice australienne, qui joue Fanny Brown, qui était donc en fait l'amour de la vie du poète John Keats, qui lui a vécu très peu de temps, juste le temps d'écrire quelques chefs-d'œuvre, par contre pas assez longtemps pour être connu et vivre de sa plume.
Oui, c'est un film aussi qui a dérouté par un classicisme apparent, on va dire, dans la mise en scène. Mais c'est voilà, c'est un film que moi j'ai vu au cinéma donc en 2009 quand il est sorti et que je n'ai pas revu depuis parce qu'il est complètement ancré dans ma mémoire et que rien que d'y penser, je pleure. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pas forcément un film qui est extrêmement triste, mais je pleure tellement c'est beau pour moi, voilà. Mm-hmm. Donc je suis une Madeleine avec. Avec ce film.
C'est un très beau film.
C'est un film qui est magnifique vraiment, en fait, Jane Campion, dans ce film, elle magnifie le moindre geste. Et d'ailleurs, le générique du film, enfin, la première scène du film, on a en gros plan l'héroïne qui est en train de coudre. Parce que donc Fanny Brawne est plus riche que John Keats, mais elle est, elle est plutôt du côté de l'artisanat que de l'artiste, on va dire. Et sauf que Jane Campion va montrer cet artisanat, puisqu'elle est, elle coud ses propres vêtements. C'est quelqu'un qui est très qui réfléchit vraiment à la façon de s'habiller, tout ça, et à la création de vêtements. Et donc elle filme comme si c'était une artiste, au même titre que John Keats, en fait, qui lui est un poète, qui est un art, on va dire, plus reconnu, voilà,
plus flamboyant.
Et alors elle filme comme ça ses gestes, en fait, de l'artisanat, avec une attention, avec une minutie. Et c'est vraiment un film du détail, de la minutie. On a des scènes avec des papillons qui sont magnifiques, des plans, des plongées sur tous les personnages qui sont allongés dans des plantes violettes. Enfin, c'est vraiment un film qui est sublime. Après, on peut ne pas rentrer dedans parce que c'est effectivement... si on n'est pas... ça peut laisser un peu hermétique. Ça peut être un peu hermétique pour certains spectateurs, mais essayez quand même d'y retourner parce que c'est un film qui vaut le coup.
Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma, où ça reste quand même les meilleures conditions pour découvrir un film.
Moi, les 20 dernières minutes sont un peu floues, puisque donc je pleurais, mais même plus, c'était beau.
Et puis, avant de terminer, on ne peut pas ne pas aborder la série qu'elle a co-créée, co-écrite, co-réalisée. Enfin, en gros, elle est complètement derrière cette série. C'est Top of the Lake. Il y a eu 2 saisons de 6 épisodes chacune en 2013 et en 2017. Et moi, j'ai absolument adoré. Je ne suis pas très série, mais j'aime beaucoup les séries qui se terminent, en fait. Et donc là, j'étais servi. Et même si j'ai envie de voir la
oui,
suite.
Voilà.
mais voilà, au moins, c'est écrit comme une histoire qui dure 6 heures, en fait. Et les 2 saisons, c'est une espèce de synthèse de tout son travail, où on va retrouver tout plein d'éléments qu'on a retrouvés avant, avec une héroïne donc, qui est jouée par Elizabeth Moss. Excellente actrice australienne, également. Plein de super acteurs. Elle fait retravailler d'ailleurs l'actrice de Sweetie, Geneviève Lemon.
Et Holly Hunter, l'actrice de La Son de Piano. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un côté équipe aussi dans son travail. Et on retrouve beaucoup donc Geneviève Lemon, qui était l'héroïne de Sweetie, qui continue à tourner jusqu'à Top of the Lake. Holly Hunter, Nicole Kidman, qui joue dans China Girl.
Ouais.
Que j'ai mis du temps à reconnaître d'ailleurs, parce qu'elle est un petit peu... Ils lui ont mis un dentier, je crois, un truc. Enfin, elle a le visage un peu modifié, donc c'est un peu perturbant.
China Girl, c'est le nom de la deuxième saison.
Oui, pardon, c'est la deuxième saison de Top of the Lake.
Ouais.
Et on a Peter Mulan aussi. Et ce qu'on trouve aussi beaucoup dans... Tu disais, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de synthèse, l'attention au décor.
Ouais.
Et parce que Jane Campion, oui, elle filme des héroïnes, mais elle filme aussi des espaces d'une façon complètement inédite. Enfin, extraordinaire. Et on a vraiment envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Quand on voit Top of the Lake, notamment la première saison, enfin, on a envie d'aller voir les paysages Nouvelle-Zélande, pas forcément les gens qui y habitent.
Pas toujours
d'ailleurs.
Accueillant.
Non, mais par contre, les paysages sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'on passe d'un paysage lunaire à une forêt genre Amazonie, à un truc complètement désertique, à une prairie. C'est assez extraordinaire. Les gens sont aussi bien à cheval qu'en voiture. Enfin, il y a un truc complètement... hors du temps, en fait, dans la série, tout en traitant de problématiques extrêmement modernes, extrêmement malheureusement contemporaines. Hein. Donc, ça commence par une petite fille de 12 ans, c'est la première scène, qui essaye de se suicider ou de se noyer dans un lac, donc, parce qu'on découvre qu'elle est enceinte.
À 12 ans.
À 12 ans, voilà. Et donc, évidemment, il va y avoir une enquête, puisque donc, ça n'est pas tout à fait normal.
Ouais. Ça paraît... Il y a plein d'éléments qui sont très difficiles dans cette série, dans les deux saisons. Très difficiles et très bien amenés. Enfin, c'est vraiment... je trouve que Elizabeth Moss, l'actrice principale, fait un boulot remarquable pour nous emmener dans cette histoire sans que ce soit finalement aussi trop lourd. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est à quel point cette série est fun aussi. Il y a des scènes absolument... ahurissante, extrêmement. Alors, parfois des explosions de violence. Dans la deuxième saison, la confrontation avec son ancien chef est absolument...
sorti de nulle part, cette scène, je m'y attendais pas.
Oui, puis surtout, c'est extrêmement bien fait, j'en reviens pas. Il y a Gwendoline Christie, donc l'actrice britannique qui est très grande, qui jouait dans Game of Thrones, qui est extraordinaire dans la deuxième saison, qui pourtant n'est pas un personnage comique pour autant, mais qui apporte aussi pas mal de... On souffle beaucoup, en fait, grâce à ce rythme un peu en 6 heures, comme ça, et je le conseille vraiment.
Ah ouais, non, c'est... mais je pense que c'est un côté aussi, c'est très australien, néo-zélandais. Enfin, il y a le cinéma néo-zélandais et le cinéma australien. Je trouve qu'il y a un côté un peu parfois burlesque et où il y a un ton particulier en fait qu'on trouve dans les films australiens qu'on retrouve là, c'est-à-dire un mélange des genres aussi un peu décalé avec des personnages parfois caricaturaux qui ont l'air caricaturaux mais qui ne le sont pas forcément. Et non, c'est vraiment une série à découvrir, à redécouvrir. Effectivement, alors je crois qu'en plus elle est assez accessible sur Arte, elle était diffusée par Arte, mais en plus c'est 6 épisodes, il me semble, ou 8.
6, ouais.
6 dans chaque saison, donc c'est faisable. Quoi. C'est pas, vous n'avez pas 25 épisodes et 12 saisons par épisode. Donc c'est, voilà, c'est vraiment jouable.
Ça se trouve très facilement en coffret DVD, là, moi je l'ai trouvé.
Ouais. Et c'est effectivement l'association entre des corps différents aussi, comme Gwendoline Christie qui est immense et blonde et très, voilà, très impressionnante, avec Elisabeth Moss qui a l'air toute petite à côté. Ça, on le retrouve dans plusieurs films aussi.
Et toutes les travailleuses du sexe dans la deuxième saison aussi, qui sont toutes petites, très, très enfantines. Enfin,
et la fille de Jane Campion, Alice, Alice Eggert, qui joue un personnage incroyable aussi dans la saison 2 de Top of the Lake.
Qui est mené par une espèce de Charles Manson affreux.
Mais complètement loser.
Mais loser. Un Charles Manson qui a losé.
C'est ça.
Bon, difficile. l'émission touche à sa fin, voilà, parce que c'est comme ça, ça ne dure qu'une heure et c'est souvent très frustrant. J'espère qu'on vous a donné très envie de voir les films et les séries, donc et courts-métrages de Jane Campion. Mélanie Boissonneau, merci énormément d'être venue jusqu'à chez nous pour pouvoir faire cette émission en direct. J'espère que voilà, tu as pu dire ce que tu voulais sur Jane Campion.
Oui, mais j'aurais pu rester 12 heures, mais c'était un plaisir toujours de parler de ces films, et j'espère vraiment que vous aurez envie d'aller les voir.
Super. Quand l'émission sera en podcast, donc très rapidement, on mettra également des liens vers Le Bistrot de l'Horreur, par exemple, ou tes différentes publications. Merci à tous. On vous souhaite un bon week-end ensoleillé à Nantes ou ailleurs, et on se retrouve donc le mois prochain pour une autre thématique de cinéma. Bonne journée et à très bientôt. Merci.
Au revoir.
Et on termine bien sûr en musique avec le générique de fin de la deuxième saison de Top of the Lake par Mark Bradshaw. Allez, bon samedi.